Commission, appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Et notre débat du jour, la Corne de l'Afrique est-elle en voie de stabilisation? Êtes-vous optimiste après de nombreuses années de conflits dans la région? Le débat est ouvert sur notre page Facebook et au standard 33 9 693 693 70. Vous avez suivi bien sûr cet accord trouvé entre les belligérants au Soudan du Sud, ce rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée, mais aussi entre l'Érythrée et la Somalie. Alors il y a des optimistes et des sceptiques avec nous. Clément, vous êtes en ligne de N'Djamena. Bonjour Clément.
Bonjour Monsieur François et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Comment est-ce que vous réagissez à cet accord de paix chez vos voisins sud-soudanais?
Bon, je réagis un peu sceptique par rapport à l'accord qui est trouvé, même si naturellement on peut donner du crédit à tout accord de paix. Mais le passé montre quand même que malheureusement c'est une situation qui risque de se répéter. Parce que pour moi, un jeune pays, maintenant seulement depuis juillet 2011, la guerre a commencé en décembre 2013, le premier accord a eu lieu déjà en août 2015 en Éthiopie, et cette fois-ci au Soudan. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup pour lesquels les hommes politiques sud-soudanais doivent prendre conscience que c'est du peuple qu'il s'agit et non d'eux qu'il s'agit. Parce que dans cet accord-là, malheureusement, on lit davantage des questions de partage du pouvoir et non des questions réelles de développement du Sud-Soudan.
Ce ne sont pas pour vous des conflits entre peuples, mais des conflits entre hommes politiques.
Exactement. Et malheureusement, c'est là où j'en suis arrivé à une conclusion que je commence par y réfléchir sérieusement. Pourquoi est-ce que ailleurs les hommes politiques ou la politique en général construit, alors que dans nos pays africains, pour la plupart, la politique détruit? Donc ça, c'est quand même un véritable problème et qui fait que pour moi, cet accord-là, on peut quand même leur donner du crédit. Mais déjà avant, le président Salva Kiir avait déjà signé un accord où Riek Machar était vice-président. Donc ça n'a même pas fonctionné, cette question-là encore. Et comment aujourd'hui je peux donner du crédit totalement à un accord qui semble remettre la même chose avec une période transitoire de 3 ans qui va commencer 120 jours après la signature de l'accord, avec la reprise de production pétrolière? Tout ça c'est beau, mais en réalité on est en train de régler le problème entre des frères, des personnalités politiques et non un véritable problème pour le développement du Sud-Soudan. Et c'est ça que je déplore. Avec des millions de déplacés et des millions de morts, je ne sais pas s'ils sont conscients que leur jeune pays est en train de prendre le même chemin que beaucoup de pays africains avaient déjà pris ça avant eux.
Voilà, 4 ans et demi de guerre civile, des dizaines de milliers de morts, vous l'avez dit, près de 4 millions de déplacés sur une population de 12 millions d'habitants et une crise humanitaire catastrophique dont on essaye de parler le plus souvent possible sur RFI. Merci Clément d'avoir été en ligne de N'Djamena, toujours au Tchad, mais plus optimiste. Djiber est avec nous, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous saluez ce qui se passe chez vos voisins.
En effet, je salue dans la mesure où cet accord permet, n'est-ce pas, de pouvoir peut-être amener enfin la paix dans ce jeune pays. Je suis optimiste dans la mesure où tous les parrains, je veux parler du président Yoweri Museveni, du président Uhuru et du président soudanais El Béchir, étaient là pendant, n'est-ce pas, cet accord, et que par conséquent, ces trois présidents doivent pouvoir, n'est-ce pas, s'y mettre davantage pour que cet accord puisse se pérenniser, puisse avoir, n'est-ce pas, tous les effets escomptés, notamment pour la population de ce jeune pays. En effet, moi je pense que la stabilité du Soudan, du Sud-Soudan, est également primordiale pour le Soudan, pour le Kenya, mais également pour l'Éthiopie et l'Érythrée, notamment la Somalie, dans la mesure où dans ce pays, il y a aussi ces chebabs qui se nourrissent des effets, n'est-ce pas, pervers de ce qui se passe de l'autre côté de la mer Rouge, notamment au Yémen. Donc cet accord doit pouvoir, n'est-ce pas, survivre contre tous les aléas de la nature, de manière à amener, n'est-ce pas, la paix dans ce jeune pays, permettre à ce pays de se développer et également de mettre dans la sérénité tous ses voisins pour qu'ensemble, ils puissent voir dans l'avenir.
Oui, vous estimez qu'enfin, les dirigeants de cette région, vous avez parlé du Kenya, de l'Éthiopie, avec ce nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, qui est très populaire et très volontariste, prennent conscience des menaces qui les touchent tous. Vous avez parlé notamment du terrorisme, il y a aussi la piraterie.
La paix, elle est indispensable pour tous nos pays, même pour ceux qui sont en paix également. La paix est nécessaire et indispensable. Et quand je pense un peu à l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, je crois que ces pays-là doivent pouvoir œuvrer ensemble pour que la paix puisse, n'est-ce pas, perdurer. Parce que sans la paix, il n'y aura plus de développement. Et moi, je pense que l'initiative prise par le Premier ministre éthiopien pour aller directement voir son homologue érythréen, et ensemble, ils ont permis la roue et l'ouverture des ambassades, tout comme le rétablissement de la ligne aérienne entre les deux capitales, c'est un signal fort envoyé à tous les dirigeants pour qu'ensemble nous puissions nous donner la main, travailler dans le cadre d'un processus pouvant amener la paix dans la Corne de l'Afrique et partant dans l'ensemble de nos pays africains.
Merci Djibert pour votre point de vue. Prince, vous êtes à Paris. Bonjour Prince.
Oui, bonjour François.
Et vous aussi, vous espérez que ce rapprochement entre Érythrée et Éthiopie servira d'exemple pour tous les Africains?
Oui, il faut déjà partir du fait que la Corne de l'Afrique, comme on appelle, c'est quand même une région qui brûle depuis longtemps. Et justement, tout processus de paix est toujours, il faut toujours le prendre. Et évidemment, comme disaient mes prédécesseurs, il est à craindre que, on a déjà vu plusieurs fois des accalmies entre l'Éthiopie et l'Érythrée et ainsi de suite. Et puis les choses qui repartent. Il faut vraiment espérer. Et moi, j'ai bon espoir que cette fois-ci, peut-être que les choses vont être un peu plus pérennes, tout simplement parce que on peut avoir l'impression que ça va très vite, mais bon, beaucoup de choses se décident en même temps. On ouvre les ambassades, on réouvre les lignes aériennes. Je crois que ça pourrait être un peu plus, stable.
Vous attendez des choses plus concrètes, plus rapides pour le développement de ces pays?
Le développement de l'Afrique, aucun pays africain ne pourra se développer tout seul. Il faut que l'Afrique comprenne que la paix apportera seule les conditions de développement que l'Afrique attend. D'autant plus que dans tous les pays africains, quand on prend ne serait-ce qu'un seul pays, bon, prenons par exemple, l'Éthiopie, Addis Abeba, c'est une très belle ville. Tant qu'on est dans le grand centre urbain, on se croit quelque part où la vie serait bien, mais dès qu'on quitte les villes, on tombe dans la misère. Et donc, moi, ce qui me fait croire que ça pourrait être durable, c'est tout simplement que je pense que le Premier ministre actuel a peut-être compris que la raison de la guerre, qui était l'accès au front, à la façade maritime par l'Éthiopie, la raison de la guerre, on peut trouver des arrangements, parce que bon, je pense qu'il a voulu s'octroyer cette tortue au front de mer déjà par la force, avec l'annexion justement d'Érythrée par Haïlé Sélassié en 1962. L'histoire a montré que la guerre, la situation de guerre ne permet pas en fait de créer des conditions stables et viables pour cet accès. Donc je pense que ce sera de l'intérêt de l'Éthiopie justement de nourrir cette paix-là. Et dans la mesure où surtout c'est quand même un pays qui a un devoir d'exemple en tant que pays qui abrite justement le siège de l'Union africaine, et cette Union africaine qui doit travailler justement à la paix de l'Afrique pour que l'Afrique connaisse enfin d'autres types, puisse envisager dans la paix son développement de manière intégrée. Parce que j'insiste sur le terme intégré, parce que aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont chacun des potentialités qui sont peut-être plus ou moins importantes les uns par rapport aux autres, ils se disent qu'ils vont se développer tout seuls, mais ça n'arrivera pas.
Voilà, le développement dans la coopération, merci Prince, avec pour l'Éthiopie, effectivement, peut-être de nouveaux accès à la mer via l'Érythrée, et pour l'Érythrée, la capacité à peut-être utiliser le tissu industriel qui est en train de s'agrandir en Éthiopie. Néo, bonjour, vous êtes avec nous en ligne de Yaoundé. Néo, est-ce que vous êtes avec nous à Yaoundé?
Oui, je vous suis. Bonjour François Mazé, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
Soyez le bienvenu, mais vous, vous êtes dubitatif hein, face à cette région, cette corne de l'Afrique, très instable.
Oui, malheureusement, on est obligé d'être dubitatif par rapport à l'histoire géostratégique, politique et économique de ces pays qui ne cesse et ne cessera jamais d'être troublé, malheureusement, oui. On a vu un accord hâtif signé entre les deux communautés, disons, entre le président Riek Machar et son vice-président récemment. Mais le problème est que c'est sur la, comment dirais-je, la durée à tant que telle de l'accord. Parce qu'on sait tous les deux que ce n'est pas pour la première fois qu'ils ont signé un accord entre eux.
Pour vous, c'est juste un cessez-le-feu supplémentaire qui risque d'être caduque très rapidement.
Voilà, voilà. C'est pour ça que je parle d'un accord hâtif, parce qu'apparemment toutes les dispositions ne sont pas encore réunies pour une paix durable dans ces pays malheureusement ravagés par des années de guerres civiles.
Oui, effectivement, hein, les signataires l'ont signalé, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais ils ont été assez optimistes. L'accord de 2015 nous avait été imposé, il s'est écroulé, celui-ci n'échouera pas, a promis par exemple Salva Kiir. Riek Machar, lui, a dit qu'il n'était pas sûr que ce soit une bonne paix, mais qu'au moins elle existait et que le peuple sud-soudanais pourrait respirer et régler peut-être ses problèmes. Est-ce que vous demandez peut-être une implication plus forte des voisins ou en tout cas de la communauté internationale pour aider les sud-soudanais?
Oui, je crois bien que la communauté internationale, même le SADC, SADC peut toutefois intervenir pour stabiliser ces zones et surtout la communauté internationale, raison pour laquelle moi j'aurais même suggéré une mission de stabilisation de la zone sous la bannière onusienne par exemple, et une conférence, disons, oui, ou un dialogue politique inclusif entre les fils du Soudan bien sûr, et des élections démocratiques transparentes et acceptables par toutes les parties en présence, parce que derrière Riek Machar et Salva Kiir, c'est deux communautés aussi qui ne se sont pas encore réconciliées après plusieurs années de guerre, qui ne se saluent même pas par Ramallah. Voilà, donc il y a aussi ça. C'est vrai de passer au-delà de ces deux hommes.
Merci Néo, effectivement, pour ce qui se passe au Soudan du Sud. Il y a une mission hein, onusienne, c'est la MINUS, mais qui est un petit peu prise au dépourvu par cette guerre civile qui se déroule depuis décembre 2013. Aziz, vous êtes burkinabé, mais vous êtes installé à Paris. Soyez le bienvenu, bonjour.
Oui, bonjour François, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous également, vous êtes perplexe en raison de ce que vous appelez les États faillis de cette région.
Oui, effectivement. D'abord, je tiens bien sûr à saluer ces accords, c'est-à-dire l'accord entre l'Éthiopie et l'Érythrée, qui permet justement de mettre fin à un conflit qui est gelé depuis des décennies, et aussi l'accord entre les deux protagonistes au Sud-Soudan, qui, à mon avis, permettra au moins à la population d'avoir un peu de répit. Mais justement, mon inquiétude se trouvait au niveau des États déliquescents qui entourent la région, notamment la Somalie et le Yémen. Je trouve que la communauté internationale fait peu de cas de la guerre au Yémen, qui aujourd'hui est en passe de devenir carrément un État failli, malheureusement, et cela justement a des répercussions sur la piraterie maritime au niveau du golfe d'Aden, et ça peut se répercuter sur Djibouti, sur tous les États de la Corne de l'Afrique. Donc, à mon avis, la communauté internationale gagnerait justement à mettre la pression à l'Arabie Saoudite et ses alliés afin qu'on puisse quand même stabiliser le Yémen.
Merci Aziz, en ligne de Paris. Un autre point de vue, celui d'Alan. Bonjour Alan.
Oui, bonjour.
Vous vivez à Nairobi, au Kenya, où le conflit justement entre l'Érythrée et l'Éthiopie avait des répercussions très concrètes, puisqu'il s'était exporté entre les diasporas installées chez vous à Nairobi.
Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est la vérité. C'est notre conséquence de cette guerre, parce qu'il y a des communautés sudanaises et éthiopiennes installées au Kenya, et les gens qui ne s'entendent pas clairement, donc... Désolé, parce que ici, c'est difficile pour moi d'être optimiste comme les autres auditeurs, parce qu'ici, on parle de la situation sur le terrain. Beaucoup de gens qui sont venus ici il y a beaucoup d'années et qui se sont installés ici ont des enfants, mais il n'y a presque personne qui veut rentrer chez eux, surtout les Sudanais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour eux, il n'y a pas d'espoir. On parle toujours des accords. Et qu'est-ce qui se passe après? après c'est la guerre pour eux. Donc ils sont habitués et c'est difficile vraiment de leur convaincre qu'il y a quelque chose de concret qui est en train de se réaliser, parce qu'en 2015, on a fait la même chose. Mais pour eux, on est habitué à la guerre. Par rapport à la situation en Éthiopie, je suis plus optimiste parce que ici, pour la première fois, on a un premier ministre éthiopien qui comprend maintenant la valeur de la paix. Et il a fait des efforts pour améliorer les relations avec l'Érythrée. Je dirais que ce sont deux situations totalement différentes. Au cas de l'Éthiopie et de l'Érythrée, je suis plus optimiste.
Vous êtes plus optimiste et vous espérez peut-être que Éthiopiens et Érythréens qui sont voisins chez vous à Nairobi pourront se parler demain, tout simplement ?
Bien sûr, parce que de nos jours, c'est beaucoup plus facile. Vous savez ce qui se passe ici au Kenya, ce sont des communautés qui font beaucoup de business. Ce sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Il y a beaucoup de restos éthiopiens et érythréens ici à Nairobi. Difficile de voir un mélange de ces deux communautés, mais j'espère que pour la première fois, on va voir, même si c'est un dialogue ou bien des contacts entre eux. Mais c'est pour cela que je disais qu'auparavant, on disait que la guerre, le conflit avait été exporté chez nous.
Merci Alan, vous étiez en ligne de Nairobi au Kenya. Francis nous suit à Bujumbura au Burundi. Bonjour Francis.
Bonjour.
Vous voulez déplorer que certains pays et surtout leurs dirigeants perdent 20 ans dans des guerres vaines et inutiles.
Oui, je commencerai si vous voulez par féliciter. Vaut mieux tard que jamais. On sait, c'est toujours ce qui se passe en Afrique. On attend toujours pour attendre ce qu'on devait faire dans quelques années. On le fait dans des siècles. Alors voilà, je pourrais féliciter le premier ministre éthiopien qui a au moins montré sa bonne volonté. Sinon, pourquoi passer autant d'années, 20 ans, plus de 2 millions de tués, des économies qui ont été saccagées, des relations qui ont été détruites entre le peuple qui était vraiment frère éthiopien et érythréen. Donc je me dis aujourd'hui, pourquoi ce sont ces mêmes individus qui vont demain réclamer des applaudissements de nous tous et même des prix Nobel. Et je me dis pourquoi tout cela. Alors, comme je le dis souvent, c'est un problème de leadership. En Afrique, c'est-à-dire que la relation ne dépend plus de nos peuples, mais ça dépend d'un chef. Un chef qu'on peut aujourd'hui mettre en place et qui va demain, qui ne sera plus en place. Voilà, c'est un problème que nous avons. Il devrait y avoir une relation entre peuples pour que nos peuples vivent en paix, indépendamment d'un chef qui va intervenir aujourd'hui ou demain.
Et vous voyez pourtant qu'en Éthiopie, un changement de leadership peut avoir de très importantes conséquences.
Oui, en effet, c'est important. Mais si demain, il y a quelqu'un qui est en colère, il va détruire tout ce que l'autre aura fait. Et je me dis, c'est un problème de leadership. Il faut qu'on se mette dans une logique à mettre dans nos pays des leaders capables, des leaders extraordinaires qui comprennent l'importance de la paix dans nos pays.
Donc vous saluez ce qu'a pu faire Abiy Ahmed, parce que quand même, pour la première fois depuis 35 ans, l'Éthiopie et l'Érythrée se parlent. Pourtant, Isaias Afewerki, le président érythréen, lui, il est là depuis le début des années 90 et il a entrouvert la porte face à un jeune homme qui est venu lui dire « maintenant, il est temps de faire la paix ».
Oui, en effet. Donc, François, voilà, c'est un problème de leadership, comme je l'ai souvent dit. Et on ne peut pas évoluer tant qu'il y a des gens qui font évoluer la politique de façon colérique, selon leurs intérêts. Et moi, je me dis, aujourd'hui, je salue ce que ce jeune Premier ministre a fait. Et je voudrais que les Éthiopiens comprennent que leur paix dépend de leur chef et que, naturellement, ils doivent tout faire pour instaurer une logique qui fait que seuls des leaders qui ont une logique de paix puissent accéder à leur magistrature. Et cela doit se passer dans la plupart de nos pays. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, voilà, par exemple, un pays comme le Mali, qui à un moment donné eut la paix, mais il suffit de changer de chef et tout s'écroule. Donc, c'est ce qui se passe. Je regarde même à côté, avec le pays, le Soudan du Sud, c'est la même chose. Peut-être demain, on aura la paix grâce à quelqu'un qui pourra intervenir facilement. Donc, il y a un problème. Dans notre pays, il ne faut pas que nos peuples dépendent d'un seul individu, il faut que ça dépende des mécanismes bien établis pour qu'on puisse faire valoir des hommes extraordinaires dans notre Afrique.
Merci Francis, vous étiez en ligne de Bujumbura. Merci également à nos autres intervenants, Aziz, Prince à Paris, Néo à Yaoundé, Gilbert, Clément à N'Djamena, Alan à Nairobi et tous ceux qui sont avec nous sur Facebook, comme Alabi qui nous dit que la paix serait d'arrêter par exemple la saignée en Érythrée qui se vide de sa population, ou Denis qui salue l'altitude notamment du Premier ministre éthiopien qui a su traduire